Théma, le magazine pour faire le tour en une heure de l'actualité.
Théma.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue et bonne fin d'après-midi sur 48FM. Il est 17h et des poussières, 17h et 3 minutes pour être précis. Et aujourd'hui, exceptionnellement, nous avons quitté notre studio de Mende puisque nous sommes en direct de Grand-Rieu pour vous parler de la Quinzaine Culte, le festival d'art organisé par Tête de Bloc. Une seconde édition qui se déroule jusqu'au 26 juillet prochain et qui débute donc ce soir à partir de 19h à la Grange Le Variété, au lieu dit La Bataille à Grand-Rieu, avec le vernissage de deux expositions photographiques. Justement, pour en parler autour de la table, les deux photographes mis en avant ce soir. Tout d'abord, Emmeline Sauzet. Bonjour, Emmeline.
Bonjour.
Vous venez présenter votre série Refuge avec un travail documentaire autour de la notion de reconstruction. Puis il y aura également un atelier photographie par vous, en tout cas organisé par vous ce samedi. Et puis avec nous également Arnaud Brignon, bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour à toi, je peux même carrément dire. Photographe basé à Toulouse, tu présentes Les Communs, un travail multidisciplinaire autour des bergères et des bergers du Haut Couserans dans les Pyrénées ariégeoises. On aura également la chance de te retrouver demain à 18h, de 18h à 20h, pour un atelier photo ouvert au public avant la diffusion du film nommé Estive. C'est bien ça ?
C'est bien ça.
Pour l'instant, j'ai bien lu le programme, on est bon. Et puis évidemment, pour représenter, on a l'organisation Tête de Bloc, l'association Tête de Bloc, pardon, qui organise le festival. Bonjour.
Bonjour.
Et puis voilà, qui présentera tous les événements de cette quinzaine culte. Et donc justement, peut-être avant d'échanger avec Arnaud et Muline sur leurs travaux respectifs, est-ce que tu peux un peu nous présenter rapidement, est-ce que Tête de Bloc peut un peu nous représenter rapidement la quinzaine culte et l'idée un peu derrière cet événement, cette deuxième édition ?
Bah, tout à fait, la quinzaine culte, c'est une quinzaine culturelle qui se développe autour d'une double exposition de photos contemporaines. Donc cette année, comme c'est l'année du pastoralisme, nous avons décidé de donner la thématique « Tant qu'il y aura des brebis ». Donc toute la programmation se développe autour de cette thématique, à commencer par les deux expos photos, bien sûr. Et puis, on recevra 3 concerts, 2 projections et 5 ateliers voilà, qui gravitent autour de cette thématique.
On en parlera plutôt en fin d'interview de l'émission, justement, sans faire très exhaustif. De toute façon, on peut déjà dire aux auditeurs de tout retrouver. Toutes les infos sont sur votre site Tête de Bloc.
Tout à fait, le site tête-de-bloc.fr et nos réseaux sociaux sur Facebook et Insta.
Et puis on peut inviter, ça c'est aussi un peu la magie du live pour une radio locale, c'est si vous nous écoutez, vous êtes forcément pas loin de Grand-Rieu, donc profitez, écoutez-nous encore une petite heure et prenez la voiture direction Grand-Rieu, vous serez à l'heure pour parler justement du vernissage des deux expositions qui auront lieu donc d'ici 2 heures au lieu dit La Bataille. Et ben j'en profite justement d'avoir 2 invités en face de moi pour faire ce que parfois certains journalistes font, peut-être par souci de procrastination, mais moi je trouve ça intéressant de vous poser quand même la question, est-ce que vous pouvez vous présenter mutuellement. Arnaud, par exemple, comment tu pourrais présenter Emmeline et son travail ?
Alors, on a été réunis il y a une heure et demie déjà. Donc,
donc c'est le défi.
Donc, c'est un vrai défi.
Emmeline, tu peux déjà y penser voilà, vu que la question
est. Emmeline, un petit peu d'avance sur moi. Sur ce. Bah, Emmeline, en tout cas, c'est une jeune photographe. Elle va me dire qu'elle n'est pas si jeune, mais. Elle a 28 ans, il me semble, donc c'est plutôt une jeune photographe, même si je crois qu'elle n'est pas devenue photographe tout de suite et que ça a été un peu comme un cheminement dans sa vie. Et que cette expo, justement, elle parle beaucoup de cheminement. Elle parle beaucoup d'histoire de cheminement. Il y a eu une personne un peu qui a été le point d'entrée, je crois, une femme qui a été un peu le point d'entrée de ce travail, mais qui s'est un peu élargie après à d'autres personnes, et comment en fait, justement, en cheminant, on peut se retrouver, et je crois qu'en fait, l'exposition, quoi, parce que, pour tout vous dire, on vient vraiment de se rencontrer, hein. Mais j'ai eu la chance de voir l'exposition sur un festival où on a exposé tous les deux, déjà ensemble, il y a un an, à Bordeaux, Du coup, elle avait déjà proposé ce travail-là. Du coup, ça m'a permis quand même de voir. Et puis, c'est un travail qui est assez connu parce que maintenant, Emeline a beaucoup de succès dans la photographie. Donc, on la voit. Et voilà, en tout cas, pour vous dire que moi, j'aime beaucoup aussi cette façon qu'elle a de photographier qui est à la fois très intime en étant une distance très douce, très respectueuse. Et puis, où ses portraits, en tout cas, je suis assez admiratif de ses portraits et de sa façon en fait de rendre ces moments qu'elle a vécu, en tout cas en photo. Je trouve que c'est toujours un art très difficile de portrait, et donc voilà, donc, du coup je trouve ça très très beau.
Punaise.
Ouais, c'était le...
Il va falloir que je fasse surtout que le travail que t'exposes là...
T'en sais rien, je sais. Bon courage.
Mais juste ça, on est d'accord, le travail que tu exploses, c'est une des premières fois que tu le montres.
Tout à fait.
Oui, c'est ça. Et là, en fait, on est sur une grande première. Le travail, il me semble, il n'est pas totalement achevé.
C'est ça, c'est un espèce de...
Oui, j'ai vu le travail en cours sur le site.
Voilà, c'est un flux, tu l'as dit toi-même, ça va être un travail de plusieurs années. Et du coup, là, c'est la première fois que tu le montres. Et il y a quelque chose d'achevé et d'inachevé en même temps. Et on reconnaît très bien la patte d'Arnaud Brignon. C'est les couleurs. Alors, je sais pas ce que tu utilises comme pellicule, des pellicules périmées, je sais pas. Ça, je sais rien, on en a jamais parlé, je sais pas. C'est ça ?
Allez-y, pour parler technique, ça m'intéresse. Moi, comme ça, je travaille pas, je vous laisse. Je laisse Emeline interviewer Arnaud.
En fait, moi, j'utilise ce que je trouve, ce qu'on me donne, ce que je reçois. Et du coup, j'utilise des appareils que j'achète sur le Bon Coin dans les vides-greniers. Les pellicules, au début, je les achetais aussi sur le Bon Coin, les vides-greniers. Maintenant, les gens pensent que c'est comme le vin, que ça vieillit bien, mieux. Et ils les vendent plus cher que les pellicules neuves, donc ça, voilà. Mais il y a toujours des endroits où j'arrive à trouver des pellicules. Et voilà, ce qui me plaît, c'est aussi ce dysfonctionnement, en fait, cette perte de contrôle. En fait, moi, c'est ce qui m'intéresse aussi dans la photo, en fait, ce moment où on perd, dans la photo argentique en tout cas, il y a un moment où on perd le contrôle et ces couleurs, elles arrivent sans que je les ai demandées. Donc,
ça fait une atmosphère très, très particulière, très étrange, on peut le dire. Il y a quelque chose d'étrange en tout cas, avec des couleurs un peu délavées. Et du coup, le travail, il parle, c'est un portrait.
Parce qu'en plus, là, pour le coup, Tête de Bloc le disait, on est l'année mondiale de l'agropastoralisme. C'est vrai que là, le travail rentre tout à fait en corrélation avec ce thème.
Bah, les deux. Après, je crois qu'il y en a un qui est plus métaphorique et plus par rapport à cette question de la transhumance et même des brebis, même s'il y a un lien un peu avec un des personnages. Voilà, mais c'est vrai que le mien est plus directement lié. Et en même temps, j'ai envie de dire, le travail d'Emeline est plus inscrit dans le champ documentaire où moi, je me prends des biais pour parler dans la montagne. Quoi. En tout cas, je me prends des biais en fait, par rapport à cette question documentaire. Et mon idée, c'est plus de faire ressentir la montagne et ressentir l'estive que de la décrire.
Et peut-être justement, Tête de Bloc qui a programmé ces deux expositions, j'imagine que c'est pas pour rien. Il y a l'idée de mettre en regard ces deux expositions, littéralement d'ailleurs dans la grange, elles se répondent. Quelque chose à rajouter, déjà beaucoup de choses ont été dites, mais sur le pourquoi du comment avoir programmé ces deux expositions pour cette thématique tant qu'il y aura des brebis.
Bah oui, parce que c'est tout à fait, c'est deux visions d'aujourd'hui en photo qui nous touchent dans l'équipe Tête de Bloc, et c'est vrai que c'est des travaux qu'on apprécie énormément et qu'on avait vraiment envie de montrer et qui se répondent tout à fait par rapport à la thématique. Donc pour nous, ça faisait totalement sens et c'est vrai que c'est toujours la joie de après le montage de découvrir que ça fonctionne, quoi.
Et donc moi j'avais plusieurs questions, notamment je trouve que si j'ai cherché un peu à trouver qu'est-ce qui vous unissait, les différents traits communs de ces deux expositions, et moi peut-être la première en tout cas qui m'a interpellé, c'est le côté intemporel de vos photos. Aucun signe ou très peu de signes de nouvelles technologies, de smartphones. Est-ce que c'est une manière, une envie un peu de figer ces clichés dans un temps donné, ou justement ne pas les fixer quelque part et se dire elles auraient pu être prises il y a 20 ou 30 ans et elle pourrait être prise dans 20 ans. Est-ce qu'il y a une réflexion? En tout cas, moi, c'est dès que j'ai parcouru vos expositions, ça m'a tout de suite interpellé, ça.
Pour être honnête, je crois que je me suis jamais consciemment dit j'ai envie que la photo, elle soit intemporelle. C'est juste... j'essaie de simplifier au maximum les images et qu'il n'y ait pas forcément trop de détails, ou ni de voiture, ni de téléphone en effet, ni de... Mais c'est pas je crois que c'est quelque chose d'inconscient. Je n'ai jamais formulé ça, je ne sais pas comment ça fonctionne pour toi. Tu te l'es dit, toi ?
Ouais, je me le suis dit. Alors, c'est pas tant au moment de la prise de vue qu'au moment de l'editing, c'est-à-dire de la sélection des images, qu'en fait, je vois quand il y a un... Bon, déjà, le smartphone, c'est vraiment terrible. Enfin, les photos, les gens regardent les smartphones, c'est... Il y en a beaucoup, en fait. On s'est perçu d'ailleurs à ce moment-là à quel point on est vraiment happé par l'écran. Mais oui, en tout cas, moi, il y a une volonté de déplacer, en tout cas, le récit dans un espace-temps... Oui, un peu universel et du coup un peu intemporel complètement, quoi. Et de... Ouais, il y a un peu l'idée du conte dans ma façon d'écrire en fait avec la photo. Et du coup, oui, d'être dans ce... C'est pas un espace passéiste, c'est pas un espace nostalgique, hein. Je cherche pas du tout à renvoyer au passé, mais plutôt vraiment un espace neutre au niveau temporel. Et mais c'est vrai, on a des photos non plus, on voit pas le... C'est très bien. Ça, je pense que c'est aussi un gage de durabilité pour une expo, que de pas trop la figer dans le temps.
Il y a également aussi, mais ça a été dit un peu par Arnaud en présentant Emeline, le côté, et puis de toute façon dans ton parcours, il y a du journalisme et du photojournalisme. C'est vrai que on peut, enfin, ça pourrait être parfois des portraits qui vont déjà illustrer, mais qui pourraient illustrer des pages, je sais pas, un portrait de Libération ou Le Monde, pour citer deux journaux célèbres, avec aussi un travail, toi aussi Arnaud, de prendre le temps d'aller rencontrer les sujets. Tu vas pouvoir l'expliquer, mais ce travail est toujours en cours. Tu allais rencontrer les bergers et les bergères sur place avec un quasiment un moment d'acclimatation, je dirais. Tu parles beaucoup du climat, de ce que tu ressentais dans ces vallées-là. Toi aussi, Emeline, c'est un peu le cas. Et puis aussi, je disais Arnaud, j'en parlais parce que tu as aussi une expérience d'ancien moniteur éducateur, notamment dans un quartier populaire. Est-ce que cette expérience t'a un peu aidé dans le métier de photographe, de justement d'abord créer un lien humain avant de déclencher l'appareil photo? Et pareil, Emeline aussi, j'ai l'impression que c'est ça aussi, c'est comme si pour vous deux, la photographie, c'est bien sûr important, mais c'était aussi un prétexte pour parler des humains et des humaines.
Du coup, alors je suis éducateur spécialisé, c'est pas très très grave.
Ah oui, c'est éducateur spécialisé.
C'est le seul diplôme que j'ai de ma vie.
Donc on va être précis.
Presque content, mais c'est pas... En effet, c'est souvent des métiers qui se ressemblent très fortement. Je pense qu'en fait, il n'y a pas de... Une vie, c'est un continuum, quoi. Et les choses, elles se construisent... Aujourd'hui, je suis devenu photographe, mais évidemment, avant j'étais éducateur, mais évidemment qu'il y a des choses qui ressortent de l'un vers l'autre, quoi. Je n'ai pas arrêté d'être la personne que j'étais, et ce qui m'intéressait en tant qu'éducateur, c'était d'aller à des places, d'avoir une légitimité finalement à aller là où je n'aurais pas allé, d'aller à la rencontre, d'être avec d'autres, de me confronter à des modes de vie, des façons de penser qui n'étaient pas les miens, finalement voilà, que ça me fasse aussi réfléchir. Et ça, finalement, en effet, éducateur et après photographe, j'ai poursuivi. Et puis si je faisais après autre chose, je continuerais. C'est quelque chose, ce besoin de la rencontre, et il est de toute façon partout dans ma vie. Donc oui, après, oui, bien sûr que ça m'a aidé, mais en fait, je crois avant d'être éducateur, j'étais déjà comme ça, et voilà. Mais oui, en tout cas, cette idée de faire ensemble, de faire avec l'autre et de pas être en posture d'être quelqu'un extérieur qui vient, ouais, ça c'est quelque chose qui est hyper important dans ma pratique, et qui peut-être vient du métier d'éducateur, je sais pas, c'est possible, mais...
Et toi, Emeline, comment tu justement pars à la rencontre de tes personnages? C'est quoi la méthode que tu utilises? Comment tu vas te rentrer dans leur vie d'une certaine manière pour raconter leur quotidien ou leur passé?
Bah, du coup, la série Refuge, ça fait plusieurs années qu'elle grandit. Chaque chapitre, c'est environ 8 mois avec les gens, minimum, voire un an. Et à chaque fois, la méthode, elle change. Il y a eu plusieurs choses. Au début, c'était du stop. En fait, je partais sur une départementale ou une route et je errais vachement, quoi. Je passais des semaines à errer avant qu'il se passe quelque chose ou qu'il y ait une rencontre qui change la donne. Quelque chose qui fasse qu'en fait, on a envie de se raconter nos vies, que j'ai envie de rester, que les personnes ont envie de se raconter. Et à un moment donné, j'en ai eu assez du stop parce que, putain, c'était trop. Et je me suis mis avec une pancarte dans différentes villes de France. Et en fait, sur la pancarte, il y avait marqué que je cherchais des histoires de vie. C'est les gens qui venaient me raconter leur vie. Et du coup, ça a changé aussi la dynamique. C'était plus moi qui étais en recherche. Je suis restée figée et c'était les gens qui venaient me parler. Et ça donnait lieu à des très chouettes rencontres aussi. Donc voilà, ça change à chaque fois. Et des fois, dans les journaux aussi, lancer un appel et voir ce qui se passe. Et en fait, il se passe plein de trucs.
Arnaud, tu veux réagir ?
En tout cas, je pense que quoi, je suis assez proche de ta démarche aussi. Quoi. Je pense qu'aujourd'hui, c'est hyper important de réinterroger qu'est-ce que c'est que d'être acteur, être photographe, être sujet. Et en fait, ne pas être un peu... Il y a eu un moment, en fait, les photographes, ils surplombaient un peu, ils allaient chercher le sujet, mais sans avoir de vraiment lien, ou même avec des fixeurs. Bon. Et je crois qu'aujourd'hui, beaucoup, on réfléchit un peu à cette place de sujet. Et en fait, comment aussi le... C'est au sujet de d'amener une place, quoi, de donner l'histoire, et pas à nous d'arriver avec déjà l'histoire dans la tête et de la poser, de la calquer sur quelqu'un. Quoi.
Oui, moi je pense par exemple, toi dans ton. Tu parles, tu as pu rencontrer. Là j'ai quelques prénoms, mais tu peux en parler. On les verra aussi, en tout cas Gilles, Aymon, Virginie. C'est ça, c'est les différents bergers bergères que tu as pu rencontrer. Pareil, ça se fait comment ? C'était monté avec. Avec ton sac à dos en haut de la vallée en Ariège, et tu les as rencontrés, ou ça s'est fait, tu parlais de fixeur, ça s'est fait comment justement ces rencontres ?
En fait, non, ça s'est pas fait, ça s'est fait avec le temps, parce qu'en fait, c'est parti de la presse aussi finalement. Le début de ce sujet, en fait, il y a un moment, j'ai travaillé pour la presse, et le monde m'avait envoyé pour une commande sur l'ours. Voilà. Et en arrivant, en rencontrant Élise, la bergère, j'ai compris qu'il y avait un truc en fait, qui était Confédération Paysanne, complètement opposé à l'ours. Et alors du coup, moi qui venais de la ville, je m'étais pas trop renseigné sur le sujet, mais il y avait un truc qui marchait pas dans ma tête entre ces écolos qui étaient anti-ours, etc. Donc du coup, je cherchais j'ai compris qu'en fait il y avait une complexité en fait dans ce sujet de l'ours, qui est aussi le sujet de l'estive, et qui aussi comment on partage ces territoires en fait entre humains, non humains, les différentes activités humaines, voilà. Et du coup, je me suis dit, ouais, c'est vraiment intéressant d'aller creuser un peu ce territoire. Et du coup, je suis remonté sur les estives. J'ai commencé à faire des photos. Et justement, en fait, ça n'allait pas. Quoi. Pendant 2 ans, je faisais des photos, mais je trouvais qu'il manquait quelque chose. La distance n'allait pas. Et c'est un jour, un peu par hasard, j'ai fait un atelier dans une cabane de montagne avec des gens. Et il y avait un berger, Gilles, à côté, qui d'abord, au début, m'a pris un peu pour un fou. C'est un atelier où on faisait un peu de... Du labo sur place avec des plantes pour faire des révélateurs, bon, on trouvait ce qu'on avait. Et du coup, le premier jour, il m'a pris un peu. Voilà. Puis le deuxième jour, il m'a dit, je peux venir faire des photos avec toi. Et le troisième jour, je lui ai laissé un appareil. Et quand j'ai développé les photos plus tard qu'il m'a fait, j'ai compris en fait que c'est ça qui me manquait. C'est ça qui me manquait, c'était ce regard aussi. Il fallait nos deux regards, un regard de l'extérieur, un regard de l'intérieur pour raconter ce territoire. Et du coup, à partir de là, là j'ai demandé et j'ai rentré un autre berger à qui je donnais un appareil, et puis voilà, justement Chloé, Virginie après sont venus me voir en me disant mais il paraît que tu donnes des appareils, ça nous intéresse, et on a augmenté un peu le nombre de participants et participantes. Et c'est vrai que depuis, du coup, ça fait un petit groupe. Ça fait un groupe d'une dizaine de personnes très impliquées, beaucoup plus que ce que je pensais au départ, et qui on se voit et on revoit du coup régulièrement, on discute photo et brebis, quoi, en gros.
Est-ce que vous discutez, tu disais que c'est parti, en fait, ton travail est parti de la presse et du problème de l'ours. Nous, en Lozère, on a beaucoup de problèmes aussi. Ben, en tout cas, c'est une vraie question. Nous, c'est plutôt le loup qui inquiète dans les Cévennes, le Mont Lozère, le Mont Aigoual, les différents acteurs du territoire, notamment les éleveurs. C'est peut-être une question pour Tête de Bloc et aussi ton travail, Emeline. La question va avec. C'est, je trouve qu'on aurait presque pu appeler... plutôt que tant qu'il y aura des brebis, tant qu'il y aura des prédateurs, ou tant qu'il y aura des ours ou des loups, parce que c'est aussi un peu des loups qui viennent détruire les vies des gens qui se reconstruisent. Je sais pas si je vais trop loin dans mon analyse, mais j'ai l'impression qu'il y a ça aussi, en fait, c'est que il y a pas de victimes sans agresseurs, et est-ce qu'il y a pas, on aurait pu appeler l'exposition, ou en tout cas cette semaine culturelle, cette semaine culte, cette quinzaine culte, pardon, tant qu'il y aura des loups, par exemple.
Je ne pense pas. Non, nous, en fait, on n'a pas du tout envie d'être dans le côté polémique, etc. C'est sûr que... Enfin, c'est pas du tout l'objectif, en fait, de la quinzaine culte. Après, ça, c'est l'histoire des prédateurs en estive, etc. C'est justement ce qui est intéressant dans le travail d'Arnaud, en fait, c'est qu'il le montre et qu'il montre différentes conceptions, je pense. Et c'est que, enfin, c'est très compliqué, comme il le disait, à plein de niveaux. On reçoit par exemple aussi Florence Deboeuf, qui est bergère dimanche. Et c'est vrai que c'est, comme il disait, c'est quelqu'un qui est plutôt sur des syndicats de gauche, je pense, et qui pourtant est contre l'ours et le loup. Donc voilà, après nous, c'est pas du tout vraiment l'objectif. Enfin, nous, on part vraiment plus du côté artistique, en fait, à la base.
Et parce que peut-être tu veux réagir ou...
Il y a un berger, Emon, là, qui me disait que quand je l'interrogeais par rapport à l'ours. Il me dit ouais, mais il me dit que il y a plus de prédateurs en bas qu'en haut. En fait, il me dit les prédateurs en bas sont bien plus terribles que ceux en haut, en fait. Donc
oui, et puis c'est aussi le propre de l'art, c'est de montrer différentes visions et de plus d'ouvrir le débat que de le fermer, justement. Enfin, en tout cas, nous, on s'attend à ce qu'il y ait peut-être débat, et c'est plus dans la discussion que dans le conflit ou la fermeture. Après, enfin voilà, c'est aussi intéressant de voir de différentes conceptions, en fait.
Et justement, dans les différentes conceptions, ça a été dit dès le début, quand on voit ton exposition, Arnaud, on comprend plus facilement que ça rentre dans le thème de l'agropastoralisme, moins Emeline, même si on va l'expliquer. Toi, un peu, c'est qui pour toi les brebis dans ton exposition? Est-ce que justement on peut parler de brebis, ou en tout cas on parle de gens qui ont des parcours accidentés et qui se reconstruisent, c'est ça?
Ouais, on peut dire ça. Et après, je crois vraiment que sans être dans le cliché, on est tous des brebis. Genre t'es une brebis. Enfin, vraiment, il n'y a pas de vie sans parcours. Enfin, ça arrive tout le temps. C'est juste qu'il y a des histoires où les parcours accidentés sont plus ou moins visibles, mais. Enfin, ça arrive à tout le monde, quoi. Oui. La vie, elle est comme ça. C'est ça que je veux dire. Il n'y a pas de.
Mais c'est ce que, justement, peut-être le travail de longue haleine sur plusieurs mois t'a fait prendre conscience, ou tu le savais sûrement peut-être aussi avant, mais rendu compte que les accidents arrivent à tout le monde, et tout le monde a une histoire à raconter et une reconstruction.
Ouais, tout le monde a des histoires à raconter, et je pense que même là dans le village, tout le monde a une histoire à raconter. Il suffit juste d'écouter. Et c'est ça qui est trop chouette avec la photo documentaire, c'est que ça nous permet d'écouter ces histoires-là et pas forcément d'aller très loin.
Est-ce que justement, peut-être pour donner envie aux gens de venir ce soir au vernissage, mais rester là les 15 jours pour assister à cette exposition, nous raconter l'histoire d'un cliché que tu as pris, donc la personne qui est dessus, et qu'est-ce qu'elle raconte, qu'est-ce qu'elle reconstruit justement sur ces clichés?
En fait, dans ce que vous allez voir ce soir, il y a 3 chapitres de refuge, donc c'est-à-dire que c'est à chaque chapitre, c'est l'histoire d'une personne ou d'un groupe de personnes. Et je peux vous parler par exemple de l'histoire d'Heidi et Gaëtan. Donc Heidi et Gaëtan, c'est un couple que j'ai rencontré à Foix, donc en Ariège. Et quand j'ai rencontré Heidi, c'était il y a 2 ans, et en fait elle venait de se séparer du père de sa fille, et elle était dans une sorte de cavale avec son nouvel amoureux. Ils ont tout quitté pour s'extraire en fait de l'environnement qui était toxique, et ils étaient dans cette espèce d'énergie de tout refaire ensemble. Ils étaient très amoureux, etc. Et il y a une photo d'elle où en fait elle est dans la voiture et elle pleure. Et c'est une après-midi, on venait d'aller voir sa fille, c'était sur le retour, il y avait de la musique. Et là, elle s'est mise à pleurer. Et je crois qu'elle résume aussi l'histoire d'Heidi dans le sens où il y a beaucoup de fragilité, et à la fois il y a beaucoup de lumière dans la voiture. Et c'est le sentiment que j'avais beaucoup en étant avec elle, c'est-à-dire qu'on était toujours un peu sur un fil, et qu'il y avait aussi beaucoup d'espoir dans le fait de récupérer sa fille, dans le fait de la voir. Et le point commun entre toutes ces histoires, c'est ça, c'est que les gens se battent pour se relever, et ça va arriver. Même si ça finit pas toujours bien, on n'est pas sur un conte de fées du tout, mais...
Peut-être de bloc veut réagir. Non, je...
Non, c'était
je voyais le micro. Ça.
Non, mais c'est vrai qu'il y a ces 3 histoires qui sont vraiment très chouettes. Et la série est vraiment... Enfin, elle vraiment nous emporte... C'est vraiment voilà, le fait de ressortir du fond du trou et par la lumière.
Et justement, la lumière, c'est ça aussi qui m'a assez surpris. C'est, je trouve que tous les deux, vous avez plutôt plutôt des photos sombres. Notamment, je pense aussi à d'autres œuvres que tu as pu faire, en tout cas d'autres séries tout près du bord, ou même les portraits. Et je trouve ça intéressant que peut-être tes photos les plus lumineuses, elles se retrouvent dans cette série-là. Je sais pas si tu avais envie de mettre de la couleur, ou justement, ces histoires de vie, les gens qui se battent, qui te font dire il fallait mettre de la lumière, alors que pourtant, tu as plutôt un travail qui va tirer d'habitude sur des couleurs plutôt sombres ou froides.
Là, maintenant, un peu sérieux, je trouve que cette série-là, elle est quand même vachement sombre. Et je pense que c'est un biais de débutant. Vraiment, c'est que en fait, c'est ma première série et j'avais très envie que ce soit très cinématographique. Donc, je pense que j'ai tiré le trait du côté sombre. Mais maintenant, quand je les regarde, je les trouve un peu trop sombres. J'espère que je vais faire d'autres genres de photos à l'avenir, avec plus de soleil.
Moi, j'ai trouvé assez... pas toutes, mais de temps en temps, il y avait d'un coup de la lumière, du soleil qui rentrait dans les photographies, ce qui n'était pas forcément... Quand aujourd'hui, je suis allé voir ton site et les différentes clichés que tu avais pu faire, c'était les morts, sortaient pas forcément. Et là, ils ressortaient, là, pour le coup, à ce niveau-là, je trouvais.
Ouais, bah c'était pour pas enfermer non plus les gens dans tout ce noir, quoi. Enfin, qu'il y a quand même la lumière même filtrée qui passe, des fois. Mais de nouveau, à l'avenir, j'aimerais beaucoup qu'il y ait plus de soleil. Enfin, que ce soit pas juste une tache de lumière, mais qu'on est sur un espèce d'éclat énorme.
Arnaud aussi, moi je parlais aussi de couleurs plutôt froides, même si justement de temps en temps, avec ces pellicules un peu âgées, on se retrouve avec un ciel violet. Je pense à la photo avec les border collies en premier plan et le ciel violet. Y a même moi, je trouve un côté un peu, on disait tout à l'heure, inquiétant, presque, je sais pas si c'est un gros mot pour toi, mais presque lynchéen dans ces montagnes. On pourrait se dire que c'est une suite de Twin Peaks ou quelque chose comme ça.
Oui, quoi. Oui, pour l'inquiétude. Après moi je trouve pas ça si sombre que... enfin, pour de vrai, je trouve pas ça si sombre que ça, parce que justement ces couleurs, des fois je trouve qu'elles éclatent un peu, etc. C'est peut-être aussi le noir et blanc qui vient, etc. Sur la question de l'inquiétude, oui, il y a une espèce d'inquiétude et de merveilleux qui se mélange. Et oui, on peut citer Lynch, mais on peut aussi citer Miyazaki quelque part, quoi. Il y a quelque chose un peu pour moi de très fort, mais quoi, ces deux références que je trouve superbes. C'est vraiment deux de mes références dans justement cette façon d'instaurer la gravité au travers du merveilleux. Et ça, je trouve que ça correspond vraiment bien à la montagne. En fait, c'est quelque chose de sérieux. Les Estives, en fait, c'est un territoire. En fait, c'est un des rares territoires dans le monde qu'on partage encore où ça fonctionne entre humains, non humains, entre différents humains. Un peu comme des Escolas qu'il a décrit dans Culture et Nature, mais il n'y a pas besoin dans l'Amazonie. En fait, dans les Pyrénées, on a les mêmes systèmes, en fait, d'une façon beaucoup plus contemporaine, avec nos contemporains. Et du coup, c'est sérieux, quoi. C'est vraiment important aujourd'hui d'avoir aussi ces territoires qui sont des territoires d'espoir pour moi. On a besoin de moments d'espoir. Et ouais, on sait que le moment, il est compliqué et grave en termes de rapport à notre environnement. Voilà, après, moi, justement, j'aime bien... Oui, bah comme Lynch, comme Miyazaki, essayer de passer par le conte, par l'histoire, par le ressenti, pour parler de ça, oui.
Est-ce que ce qui joue beaucoup, c'est ma dernière question avant une petite pause musicale, mais on parlait pour fermer le chapitre des lumières et des couleurs, il y a un texte pareil sur ton site pour parler de cette série-là et de tous les autres arts qui vont découler, on en parlera après, de l'aspect météo est important. Tu parles de la brume, et on le voit aussi beaucoup, que est-ce que même, en fait, rien que les montagnes ariégeoises à ce niveau-là d'altitude font qu'en fait naturellement on va avoir ces jeux-là quasi extraordinaires de montagnes qui apparaissent, de vallées qui disparaissent sur le chemin. J'imagine qu'il y a des moments où on perd totalement ses repères dans ces montagnes.
Alors Couseran est particulière, quoi. Cette partie-là d'Ariège est particulièrement connue pour la brume. Ce qui fait d'ailleurs que c'est difficile des fois de trouver des bergers, parce qu'il faut accepter de vivre en effet dans la brume assez constamment. Donc je pense que Florence Deboeuf, qui était bergère, en parlera aussi. Mais oui, la brume, c'est presque c'est l'âme de la montagne, presque. Il y a quelque chose comme ça, en fait, dans le Couseran. C'est comme. Il y a même un berger, Gilles, qui la décline. Il dit brume. Brumette, brumelle, brumor, brumure. Et quand on a brumor, en fait, voir ses pieds, c'est vraiment un exploit déjà. Donc, alors, se retrouver les bêtes, voilà, c'est. En fait, là, on comprend l'idée de connaître la montagne, quoi. Parce que dès qu'on est dans la brume, on passe dans un autre imaginaire, en fait. C'est moi ce que je trouve aussi fantastique. Tout le paysage disparaît, et en fait, la montagne devient vraiment intérieure. Et y a quand même la brume, elle a ce... c'est comme la neige, en plus, les sons changent, etc. Il y a un truc qui modifie complètement notre perception. Et moi, j'aime bien cette idée de modifier la perception et que du coup, on fait appel à notre imaginaire pour du coup compenser. Et ouais, c'est ça, ça m'intéresse, en tout cas, cet état naturel et que je peux aussi essayer en photographie, quoi, de modifier la perception.
Oui, ben c'est vrai que c'est aussi le climat extrême des hautes montagnes, mais ça répond aussi au programme Les Tourmentes de Pierre-Yves Vandervoort, qui est un film entre documentaire et film d'artiste aussi. Et c'est justement aussi le vent lozérien qui rend fou les bergers. Donc les tourmentes, c'est les tempêtes de neige qu'il y avait autrefois. On en a moins, malheureusement, ou pas. Mais du coup, voilà, enfin voilà, c'était pour rebondir là-dessus.
Et que les Lozériens aussi vont pouvoir fixer des parallèles avec la brume ariégeoise et notre météo à nous. Il est déjà 17h30, c'est le moment de faire une petite pause musicale et on va s'écouter tout de suite Cosmic Dancer de Nick Cave.
I was dancing when I was 12. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was out. I was dancing when I was out. Dance myself right out the womb. I dance myself right out the womb. Is it strange to dance so soon? I dance myself right out the womb. I was dancing when I was 8. I was dancing when I was 8. Is it strange to dance so late? Is it strange to dance so late? Dance myself into the tomb. I dance myself into the tomb. Is it strange to dance so soon? I dance myself into the tomb. Is it wrong to understand the fear that dwells inside a man? What's it like to be alone? I liken it to a balloon. Thank you.
chase myself out of the womb. I dance myself out of the womb. Is it strange to dance so soon? Dance myself into the tomb.
Écoutez toujours 48 FM, il est 17h39 et nous sommes toujours à Grandrieux, au lieu dit la bataille, à la Grange Le Variété pour cette deuxième édition de la quinzaine culte organisée par l'association Tête de Bloc. On est ici parce que dès ce soir, le festival justement commence avec le vernissage de deux expositions. On a justement avec nous Arnaud et Méline, les deux photographes qui exposeront. Donc, toujours, si vous nous rejoignez, n'hésitez pas à prendre votre voiture ce soir, finir l'émission et vous rendre du côté de Grandrieux pour rencontrer les deux photographes. On a déjà pas mal parlé de leur travail et on vient d'écouter Nick Cave, l'artiste australien assez célèbre. Et pourquoi on a écouté du Nick Cave, c'est que ça a du lien, notamment dans l'exposition et dans le travail, je dirais même, d'Emuline, puisque sur son site, on peut lire avec l'exposition Refuge, une citation de Nick Cave qui est issue du livre Foi, Espérance et Carnage que je vais citer. Nick Cave dit ça: ce miracle quotidien me rappelle que, si dégradé que soit le monde, si corrompu ou avile soit censé être l'humanité, le monde ne cesse pas d'être beau, il ne peut pas s'en empêcher. Pourquoi tu as voulu mettre cette citation en parallèle avec cette série Refuge que tu présentes dès ce soir ici?
Bah, en fait, Foi, Espérance et Carnage, c'est un livre fleuve d'interviews de Nick Cave où il déroule plein de réflexions sur la créativité, sur la foi, sur la vie, la mort, enfin toutes les grosses questions existentielles. Et il y a beaucoup d'humour, c'est léger à lire et à la fois c'est très profond. Et c'est un livre, j'y reviens tout le temps dès que j'ai un peu des pertes de...
Une page blanche
ou même besoin de me raccrocher à quelque chose. Et du coup c'était important d'ouvrir avec cette citation-là parce que c'est une citation sur la beauté qui revient toujours, sur... la lumière et un peu les choses qu'on aborde tout à l'heure avec la couleur et le fait d'être sombre et ces traits de lumière dans le noir. C'est cette idée-là avec Refuge, c'est que faire attention à ces traits de lumière qui sont toujours là.
Malgré les épreuves que le monde peut nous présenter, au bout, pas toujours, on l'a dit des fois, mais il y a quand même dans la bataille, il y a de la lumière.
Et surtout la beauté, c'est, du coup pour revenir aussi à Miyazaki, mais je crois que c'est ça aussi, c'est la question du merveilleux, de la beauté, de savoir le voir, que la photographie permet de la regarder de plus près. Et... ouais, c'est ça.
Ça, notamment la fin de cette citation, « Le monde ne cesse pas d'être beau, il ne peut s'en empêcher », ça te parle Arnaud, quand tu as ça en tête, quand tu fais tes photos
Alors oui, moi je suis en tout cas convaincu que partout il y a du beau. C'est aussi ce qui me fait avancer, ce qui me donne cette envie de rencontrer les gens et même dans des moments assez terribles de l'humanité ou même dans des discours des fois un peu terribles, il y a du beau, il peut y avoir du beau et je pense que ce merveilleux qui peut quand même nous accrocher à quelque chose et nous permettre d'avancer, quoi. Voilà, ça veut pas dire qu'il faut être béni oui et rester là-dessus. Ça peut être dur hein, d'ailleurs d'aller chercher le merveilleux, mais je pense qu'il faut essayer, quoi, en tout cas.
Justement, peut-être pour parler d'une photo quand on rentre dans la grange, on la voit assez rapidement à gauche en hauteur. Je voulais parler de la photo de la brebis avec la tête toujours immaculée, mais le corps tout à fait, pas en décomposition, mais en tout cas qui a été mangé par une bête. Parce qu'on rappelle, ton travail, il est commun, c'est d'avoir rencontré des bergers, des bergères d'Ariège, avec derrière aussi une dimension pour parler du prédateur qui rôde dans ces vallées. Cette photo, justement... On peut peut-être parfois, déjà on aurait du mal à trouver, en tout cas la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'il y a de beau ou de merveilleux dans ce cliché ?
Bah justement, moi je cherchais en fait à voilà, en effet je trouve que on voit cette tête, on voit d'abord cette tête très apaisée, quoi. C'est un peu le dormeur du Val, quoi. C'est un peu comme Rimbaud, il y a quelque chose de très beau, très poétique en fait dans cette image de la mort. C'est une image de la mort, mais qui avec ses couleurs aussi, qui partent un peu dans tous les sens, un peu, voilà, il y a quelque chose un peu de mystique. Et ben en tout cas, justement, je trouvais que c'était moins frontal que de montrer j'ai pas envie de montrer la mort dans le côté des chics. Et là, il y a quelque chose en fait aussi d'un cycle. Enfin, il y a quelque chose d'un peu naturel en fait. De la mort, elle fait vraiment partie du métier des bergers-bergères, quoi. Pas que celle de la prédation d'une manière générale, quoi. Et du coup, pour moi, par cette prise de vue, s'il y a du merveilleux dans cette image, en tout cas dans cette façon dont elle existe, donc elle s'est révélée avec ses couleurs et ça, voilà. Mais après, on peut n'y voir que du terrible, hein, mais c'est aussi une, voilà, je laisse les gens aussi prendre les portes qu'ils veulent.
Donc là, le merveilleux, il est montré en image. En tout cas, ta rencontre et ton expérience avec aux côtés des bergers et des bergères pendant plusieurs mois, là, aujourd'hui, en tout cas, ce soir, on la verra fixée par le support image. Mais les communs, c'est un travail... multidisciplinaire avec on disait demain un film estive, les estives ou estives estives qui sera diffusé, c'est bien ça, et même aussi un travail de spectacle vivant. Alors justement, pourquoi avoir ça te dit peut-être que sur ce travail là en tout cas la photographie elle-même ne suffit pas et je vais aller investir d'autres arts pour raconter ce que j'ai vécu?
Alors en fait, c'est un peu paradoxal, vu que je présente ici une exposition, mais en fait, ce travail-là, c'était un travail que j'imaginais moins en exposition. Alors évidemment, là, comme c'est une exposition, parce que c'est un travail que j'ai imaginé en livre aussi, en fait, dans une dynamique de pouvoir être amené, d'être apporté dans les estives, justement, l'idée, c'est de pouvoir aussi le colporter à différents endroits. C'est un travail qui part de... au très enclavé où c'est difficile de se rendre d'un endroit à l'autre, sûrement comme en Lozère où tout est à une heure de route où qu'on soit, quoi. Et l'exposition, ben, c'est une expérience formidable, mais un endroit donné qui sont des endroits en plus souvent où on a du mal à pousser les portes. Et moi, j'avais envie que ce travail, en fait, il existe aussi en dehors de la sphère purement artistique et photographique. Et du coup, d'essayer de l'amener autrement. Donc, il y a l'histoire du livre qui est un peu un point de départ. Et tu parlais de cette idée d'avoir une dimension supplémentaire. Oui, en fait, moi, il y a... Dans mon travail, la part de l'écriture, elle est assez importante parce que, mais quoi, Emeline racontait la même chose. En fait, il y a la photo, c'est une porte d'entrée, mais après, en fait, la photo, elle peut pas raconter toute l'histoire. Et des fois, c'est bien. Des fois, c'est bien que ce soit juste une porte d'entrée et chacun puisse divaguer et aller là où il veut. Moi, ça me va. Mais c'est aussi intéressant que la porte d'entrée, elle amène une histoire. Et du coup, dans mon travail, il y a beaucoup de textes qui viennent aussi amener à cette histoire. Et puis, le film, en fait, il est venu un peu sur le tard. Il est venu à la dernière année, l'an passé en fait, moi j'avais quand même donné plein d'appareils photo aux bergers, bergères, qui sont les mêmes que les miens, donc ils faisaient des photos qui ressemblaient, voilà, c'était parfait, ils commençaient à maîtriser le truc, l'argentique, le hasard, tout, le développement hasardeux en montagne, et du coup en fait je me suis demandé moi ce que j'allais faire, moi, et en fait eux, avant ça, ils prennent des photos, hein, avec leur smartphone, des vidéos et tout ça. Et du coup, j'ai commencé à faire des vidéos avec mon smartphone. En fait, comme finalement, c'était un espèce d'échange de procédés, quoi. Moi, je leur ai amené une façon de faire des photos qui était la mienne. Et du coup, j'ai pris leur façon de faire des vidéos et des photos. Et du coup, dans le film, Ça mêle ces photographies là et des extraits de smartphone, en fait, des extraits de petits films faits au smartphone, etc. Donc il y a vraiment cette idée d'une transmission aussi d'un moment de passage, en fait, dans ce rapport à l'image qu'on avait. Et puis le spectacle vivant, il se trouve qu'il y a un musicien qui habite sur le territoire qui s'appelle Lios Kankis, qui était un peu au début de cette histoire. Quand j'ai commencé, en fait, je lui ai dit, mais tu veux pas venir avec moi dans les estives, je connaissais pas bien les montagnes, lui connaissait bien, emmène-moi là-haut et présente-moi des gens, des bergers, bergères. Et puis on a cheminé un peu ensemble et on s'est dit, à un moment, en fait, finalement, ça serait intéressant aussi que cette musique, en fait, et du coup, quoi, de faire ce lien ensemble avec cette musique. Et du coup, assez naturellement, il est venu un peu une forme de spectacle vivant qui est un peu une forme augmentée du film que vous allez voir demain. Et mais qui est un peu encore en cours de construction, tout ça est encore un petit peu on est encore sur le chemin, encore dans la montée, mais voilà.
Peut-être aussi pour cette question sur la multidisciplinarité, une question pour Tête de Bloc, parce que vous avez vous-même choisi avec la quinzaine culte de dire, on sait pas qu'un festival de musique, c'est pas qu'un festival de photographie, mais on va mélanger différents arts. C'est justement pour se dire que chaque art à sa manière a entre guillemets sa petite lucarne, et en tout cas dit quelque chose, à un autre angle de vue sur un sujet, ou pourquoi vouloir mélanger les différents arts, et ils se répondent pour les spectateurs, spectatrices, l'idée de cette multidisciplinarité dans la quinzaine culte.
Oui, bien sûr. De toute façon, aujourd'hui, tous les disciplines, les frontières ont tendance à s'amenuiser. Après, nous, à la base, on est plutôt musique actuelle, mais c'était vraiment aussi, on a aussi organisé des Printemps des Poètes, donc il y a aussi l'envie de montrer, ou en tout cas d'écouter des écrivains ou des auteurs, autrices. Et puis la photo contemporaine, oui, ça fait plus de 4 ans qu'on on trouve qu'elle est peu représentée en Lozère, donc on soutient et on développe ces projets transversaux. Puis c'est vrai que c'est un dialogue, mais c'est aussi une manière d'amener le public différemment, en fait, dans un lieu, le variété qui est une ancienne grange traditionnelle, c'est d'amener différents publics à découvrir différents artistes, très beaux artistes qui ont des propositions vraiment excellentes, et j'espère que le public sera au rendez-vous.
Toi, Émilie, peut-être pour rebondir sur ce que disait Arnaud sur le choix du support, j'ai écouté une interview de toi aujourd'hui où tu disais avoir choisi la photographie parce qu'elle permettait de dire, ou tu avais même plutôt utilisé le mot de révéler, des choses que ne peut pas faire parfois la vidéo ou le texte. Et en même temps, je trouve que tu as des photographies très, très, qui ressemblent beaucoup à des films. On pourrait voir que c'est quasiment des captures d'écran d'un chef opérateur sur un film. Est-ce que t'es pas fermé à l'idée de se dire, un jour, l'histoire que j'ai racontée, je vais pas la faire en photo, mais je sens que là c'est la vidéo qui va plus me parler, ou juste le texte, ou même on parlait de spectacle vivant, ou pour l'instant non, tu trouves que toi c'est dans la photographie que t'arrives à raconter ce que tu vis?
Tout ça c'est trop récent, donc je suis fermé à rien. Le seul truc que je sais, c'est que pour la vidéo et le cinéma, ça a l'air d'être techniquement lourd, et c'est un peu effrayant quand t'as pas les compétences techniques pour... Il y a le son, c'est une autre démarche qui est un peu plus lourde. Alors Arnaud, il est pas d'accord, mais d'un point de vue extérieur, comme ça, on dirait qu'on perd un peu la spontanéité de la photo où t'es avec ton appareil et juste tu peux te balader. Mais peut-être que je me trompe parce que j'ai jamais vraiment essayé. Ce qui m'intéresserait plus, je crois, c'est à un moment donné trouver un format, et là j'aimerais beaucoup le continuer, ou être sur les routes, faire des portraits de gens, raconter des bouts de vie et qu'il y ait de texte, et trouver un format où ce soit un texte et la vie de quelqu'un, un texte, la vie, enfin une photo. Que les textes et l'image se mélangent mieux, plus encore, écrire plus quoi.
Tu l'avais fait un peu avec ton exposition, c'était un portrait, un objet et une lettre. Là, il y avait déjà un peu cette idée-là de se dire... je mets en rapport les mots des gens, on pourrait même dire M-O-T-S, M-A-U-X. Il y avait un peu de ça aussi quand même, déjà, de se dire le texte, c'est important dans ton travail.
Ouais, c'est toujours été hyper important. Enfin, à la base, je viens d'une formation littéraire et je crois qu'à la base, je préfère même écrire que prendre des photos. Je trouve que les mots, ils racontent plus de choses souvent. Enfin, ils vont plus loin. Il y a quelque chose de plus dense. Et là, l'idée serait d'augmenter encore ça. Et...
Après, la photo, la puissance que n'a aucun autre art, c'est qu'en fait, la puissance de l'immédiateté, quoi. En fait, quand on rentre dans une expo, en fait, en 5 secondes, on a un truc. On n'a pas besoin d'un engagement. Mmh. Aller voir un spectacle vivant, ça veut dire qu'on se prépare quand même à l'idée de rester une heure, d'avoir une narration, tout ça, c'est super. Lire un livre, c'est extraordinaire, c'est vraiment un voyage, etc. Mais ça veut dire que le spectateur, il est prêt à faire cet effort premier. Tandis que la photo, il y a un truc assez magique de cette immédiateté, en fait, et... on rentre et tout d'un coup, là, en 10 secondes, il se passe quelque chose, en fait. Et après, on a envie de continuer le voyage ou pas. Mais, et ça, par contre, y a peu d'art qui font ça, parce que même la musique, il faut quand même... Des fois, ça marche avec le rythme, mais il faut quand même... et il y a quand même un temps imposé, une narration imposée. Et en plus, la photo, il y a une espèce de liberté pour le spectateur de prendre l'expo par un bout ou par un autre. Là, en fait, il n'y a pas de... On peut commencer par la mienne, au milieu, etc. Et ça, je trouve ça assez magique, par contre. Quoi, ça, c'est ce qui me plaît aussi beaucoup, quand même, dans l'image et la photo. C'est ce côté un peu instantané. Mais parce que moi-même, j'y suis venu comme ça. Je suis venu aussi dans cet art en me disant que c'est... Voilà, sans engagement, facile. Et après, ça ouvre plein de portes. Et en effet, ces portes de l'écriture, comme ça, pas te raconter l'écriture, tout ça, je suis complètement d'accord avec toi.
Ok. Et puis, peut-être pour bientôt terminer, j'avais une question sur. Là, rien à voir, on ferme le chapitre un peu des expositions, mais le fait d'avoir deux photographes avec moi, j'ai vu que assez rapidement, et je crois que ça avait été peut-être moins le cas d'ailleurs sur les deux photographes l'année dernière avec qui j'avais pu faire l'interview. Je suis rapidement tombé sur votre Instagram. On parlait de la photo qui permet d'être instantanée, d'avoir un lien. Est-ce que, et puis pour aussi déjà avoir interviewé des musiciens dans le cadre de ces émissions, qui disent que maintenant, moi je connais même des amis musiciens qui me disent qu'ils passent presque plus de temps à devoir alimenter un compte Instagram que de temps de création. Est-ce que vous, c'est une obligation de se dire en tant que photographe, il faut que j'ai mon portfolio via, je dis Instagram, mais on aurait pu dire un autre réseau, ou alors c'est quelque chose qui vous plaît de communiquer à votre manière sur ces... Peut-être qu'Emiline aussi, t'as grandi avec Instagram, peut-être plus qu'Arnaud, sans te faire offense.
Arnaud, il arrête jamais sur TikTok, il... sur Instagram, il arrête jamais, c'est story sur story.
J'imagine.
Non, alors c'est marrant parce que en plus l'année dernière Mathieu Farcy il est plutôt très actif.
Oui, c'est que Mathieu,
Instagram,
oui.
Donc non, moi je suis en fait.
Accusé aussi.
Ah bah alors c'est moi qui avais mal fait mon travail.
alors Instagram, ouais, je sais pas, c'est vraiment pour la photo c'est Instagram de toute façon, l'outil de visibilité. Oui, sûrement que c'est indispensable, peut-être pas en fait parce que. Ouais, je sais pas. Moi, des fois, il y a des moments où je suis un peu actif dessus, puis il y a des moments entiers où j'y dis pas. Il y a plein de photos. Tu dis, il y a mon portfolio dessus, mais en fait, non, c'est très. Il y a 5 photos à un moment, et puis après, pendant 2 mois, il n'y a plus rien à voir. Non, pour le coup, moi, j'ai un site internet qui est un peu mieux, où il y a un peu plus mon travail. Instagram, bah oui, si, je vois bien. C'est un peu quand, dans les moments où on n'a rien à faire, quand on fait de l'Instagram. Après, moi, je me sens pas très esclave de ce truc là quoi. Donc voilà.
Est-ce que c'est peut-être par ces canaux là que une galerie peut vous contacter, un musée, en disant
pas du tout, ça c'est du rêve qu'on vend là avec les TikTok et Instagram, mais quoi, ça peut,
ça arrive parfois.
Non mais ça arrive, mais je veux dire en fait, est-ce que cette galerie elle n'aurait pas aussi trouvé autrement en fait moi je vois dans parce que je suis un peu plus vieux que toi, etc. En fait finalement les têtes de bloc, vous n'êtes trouvé par Instagram, hein? Ça se trouve, c'est...
Non, moi je trouve que pour les photographes, en tout cas, le site internet est super important. Enfin, moi je sais qu'en tant que fan de photos, on finit souvent, enfin quasiment tous les photographes, en tout cas, de qualité. Enfin, je sais pas si c'est. Enfin, en tout cas, vraiment intéressant, quand même majoritairement leur site internet. Et c'est vrai que c'est une porte d'entrée sur leur travail. Avec les portfolios ou les différentes séries. Et je trouve qu'on se fait mieux une idée de leur travail sur leur site que sur Instagram. Après, c'est vrai qu'Instagram, c'est une sorte de vitrine un peu light, quoi, un peu bon, rapide.
Une sorte de génération, si je pense.
Emeline, justement.
C'est un peu ambivalent parce que ça me stresse un peu Instagram. À chaque fois que je poste une photo et que j'ai pas... Par exemple, j'ai pas suffisamment de likes, je me dis en fait elle est pas bien la photo. Je suis à ce point là matrixée par le truc, et ça c'est terrible. parce que ça peut me faire douter en fait de la qualité de ma photo, quoi.
Et l'inverse aussi, parce que si tu te retrouves avec 800 likes sur une photo, en fait il y a des photos qui sont assez faciles. En fait sur Instagram il faut une photo qui tout de suite, qui soit pas complexe. Mais si tu te retrouves avec 800 likes et tu te dis après, oh, je peux pas l'enlever celle-là, j'ai 800 likes, mais c'est débile, c'est aussi débile dans l'autre sens finalement, quoi.
Mais à la fois il y a quand même quelque chose de très pratique. Enfin, c'est une manière très efficace de communiquer sur ce que tu es en train de faire. Du fait que là nous on est en Lozère.
Vois, ouais, c'est plus une confirmation de l'actualité, quoi.
Oui, aussi.
C'est
ouais.
Hyper pratique, quoi. Mmh. Tout le monde le sait. C'est...
On a pu montrer qu'il a plu.
Voilà. C'est important de montrer qu'il a grêlé.
Oui.
Bon, c'était ma petite dernière question pour parler de votre métier, les évolutions aussi de votre métier. Peut-être juste pour terminer avec Tête de Bloc. On l'a dit au début, on peut aller sur le site de Tête de Bloc pour retrouver tout ce qui se passe ces prochains jours, pendant 15 jours ici, la Grange Le Variété à Grandrieu. Mais le reste du festival, on l'a dit, c'est des ateliers photo. D'ailleurs, on en aura deux avec Arnaud et Emeline. Mais peut-être pour parler aussi peut-être musique, on disait que Tête de Bloc, c'est avant tout, en tout cas, ça s'est construit sur les musiques actuelles. Il y a aussi des concerts à venir voir pendant 15 jours.
Donc tout à fait, on aura trois concerts, à commencer par Bergeres, Lucia Akçarit et Camille Lenné, qui sont deux chanteuses issues des chansons traditionnelles. Donc c'est un répertoire exclusivement composé de chansons de Bergère, donc avec une mise, une modernisation on va dire, ou une mise en contexte actuel de ces chansons anciennes. Donc c'est deux artistes qu'on connaît puisqu'elles sont, on les a fait intervenir notamment beaucoup en action culturelle. Mais là, on est très ravis de les recevoir pour un vrai live pareil qui débute aussi. Et ça a l'air très chouette. Et on recevra deux basques, à savoir Kimouk Salaparta. C'est des percussions traditionnelles aussi. Donc c'est une sorte de grand clavier. En fait de planches de bois en fait comme une sorte de xylophone géant et les deux percussionnistes jouent ensemble sur le même instrument, donc ça devrait être très très beau aussi. Et enfin on recevra Mélanie Loisel qui est un solo contrebasse voix, donc elle vient plutôt on va dire du jazz et musique contemporaine, mais pareil elle s'inspire des musiques traditionnelles d'Auvergne, donc c'est vraiment un peu on va dire une bergère du futur. Donc ça sera le final. Et entre temps, donc Florence Debauve, qui est illustratrice, autrice et bergère, aussi dans les Pyrénées, donc pour une conférence, lecture, rencontre, dimanche 19. Alors il y a un petit changement de programme en fait sur sur les tourmentes pour raison de Coupe du Monde et aussi enfin d'autres raisons. Donc c'est déplacé au samedi 25 à 20h30. Du coup on annule un peu le repas côtelette d'agneau malheureusement frite. Mais donc le film sera là toujours avec Pierre-Yves en fait. Donc on est ravis de le montrer ce film qui a été tourné entre le Mont-Lozère et Saint-Alban, l'hôpital. Donc il y a vraiment, comme je le disais, sur les tourmentes qui rendaient fous les bergers. Avec c'est aussi toute une aventure puisque Pierre-Yves avait monté sur le Mont-Lozère un troupeau spécialement pour le film avec toute sa famille. Donc pareil, il a embauché une bergère. Enfin voilà, c'est vraiment une aventure épique et aussi avec les résidents de l'hôpital qu'il a inclus. Donc c'est un très beau travail. Donc demain on aura Estive. Après les deux ateliers d'Emeline samedi et d'Arnaud demain mercredi. Et sinon en atelier, alors on en a 5 cette année, on a un atelier MAO, voilà, puisque c'est un peu former la jeunesse aux nouvelles technologies de création musicale, donc musique assistée par l'ordinateur, samedi après-midi. Et en fin de semaine prochaine, le 24, on reçoit l'association TRAM, qui œuvre pour aussi la création artistique contemporaine, mais autour de la laine, avec une mise en valeur donc de la laine. Donc c'est, on est ravis de les recevoir puisque c'est vraiment pareil, un très beau travail en tout cas au niveau de la laine. Donc là il y a atelier cardage le matin, atelier masque en feutre pour les enfants l'après-midi, et on les fait intervenir aussi avec les tout petits à la MAM et à l'EHPAD. Et voilà, c'est une association, enfin, on est content de les rencontrer puisqu'ils œuvrent aussi avec aussi bien dans la création, on va dire, visuelle ou plastique, mais aussi sonore, laine et son. Donc peut-être qu'il y aura des choses à suivre.
Merci beaucoup pour ces précisions. On n'a pas été exhaustif, mais encore une fois, je le répète à chaque fois, mais il faut aller sur Facebook, le Instagram aussi, on en parlait de Tête de Bloc, mais qui renvoie aussi sur votre site, et le programme détaillé de cette quinzaine culte qui commence donc ce soir et qui aura lieu jusqu'au 26 juillet prochain. Merci beaucoup à mes trois invités, Arnaud, Émilie et Emeline, pardon, et puis Tête de Bloc pour l'accueil. C'est très gentil.
Merci à vous pour le partenariat et puis le passage d'infos.
Et merci. Puis, il est 18h03, donc dans 57 minutes, encore une fois, en voiture, on a le temps de revenir jusqu'à Grandrieu. On pourrait dire le lieu où on se trouve.
Donc, le variété, lieu dit la bataille à Grandrieu. Et du coup, on offre un verre, bien sûr, pour le vernissage. Et donc, c'est l'occasion de rencontrer les photographes et d'échanger, de poser vos questions. C'est vraiment des moments privilégiés. Donc, on vous accueille avec grand plaisir.
Et puis on va vous souhaiter une belle quinzaine culte et de venir. Et puis je voulais terminer en musique. J'avais une musique qui était en lien avec le travail d'Emeline avec Nick Cave. J'ai essayé de chercher et donc je me suis dit il n'a pas que le nom, mais Flavien Berger, parce que aussi c'est une musique qui parle de saisonnalité et du temps qui passe. Donc on va se quitter en musique tout de suite avec Intersaison de Flavien Berger.
Matin, il y a ISS à l'horizon. J'attends que ça passe. Ne me dis plus rien.